Je vais pour ma part aborder deux points. Le premier, qui est peut-être une évidence pour tous, mais qui mérite d'être rappelé, c'est qu'il y a un lien très étroit entre le développement d'un côté et le climat de l'autre. Donc c'est une conviction très forte partagée à l'Agence française de développement depuis maintenant plus de 12 ans, qui est qu'au fond, lutter pour le développement et lutter contre le réchauffement climatique sont deux combats absolument, sinon absolument identiques, très très corrélés l'un à l'autre. Pour le montrer, je voudrais simplement vous rappeler cette première carte qui est établie en utilisant un indice de vulnérabilité physique au dérèglement climatique, qui a été construit à Clermont-Ferrand et que nous avons utilisé à l'Agence française pour des géographies spécifiques, et donc qui mesure l'exposition d'un pays au dérèglement, avec la montée des eaux, la désertification, l'érosion des sols, etc. Et comme vous le voyez, on voit ici un premier exemple de la double peine à laquelle sont soumis les pays du Sud, qui est que ce sont pour la plus grande partie d'entre eux les moins émetteurs de gaz à effet de serre, et ce sont les plus exposés au dérèglement climatique dans sa dimension physique. L'avantage de cette focalisation sur la dimension physique, et j'entre immédiatement dans l'aspect politique du sujet, c'est que ça permet d'entrer dans une négociation au sein de la communauté internationale sur quels sont les pays à qui, de manière prioritaire, la communauté internationale va accorder de l'argent. La difficulté étant que, si vous n'utilisez pas ce type d'indice-là, vous allez en utiliser d'autres, comme celui-ci, qui tiennent compte de, disons, la vulnérabilité institutionnelle politique du pays. Et il se trouve que c'est la triple punition, ce sont toujours les mêmes pays qui sont les plus vulnérables, à la fois physiquement et d'un point de vue politique. Mais là, au niveau de la négociation internationale, on entre dans une espèce de débat, de pseudo-débat moral sur le thème « Pourquoi nous devrions-nous donner de l'argent ou prêter de l'argent à bateau à des pays qui ont de très mauvaises institutions politiques ? Au fond, nous accordons une prime aux mauvais. » D'où l'intérêt d'entrer dans ce type d'indice qui, lui, permet d'échapper à ce pseudo-débat moral. Le deuxième point, alors pour illustrer encore cette corrélation très très forte entre développement et climat, il y a un rapport qui vient d'être publié par la Banque mondiale avec une contribution très forte d'un économiste français, Stéphane Algat, sur la manière dont on peut mesurer l'impact qu'aura le dérèglement climatique à horizon 2030 sur les populations déshéritées de cette planète. Et en gros, pour aller très très vite, le résultat c'est qu'il est assez vraisemblable que nous ayons quelque chose comme 100 millions de personnes, ça dépend évidemment du scénario, qui tomberait en dessous du seuil de pauvreté extrême qui aujourd'hui est évalué à la possibilité de disposer d'1,90 $ par jour, en moyenne, tous les jours. Donc 100 millions de personnes à horizon 2030 qui tomberaient en dessous de ce seuil de pauvreté extrême. Ça ne veut pas dire qu'à 2 $ on vit bien, simplement à cause du dérèglement climatique. Voilà. Donc ça traduit aussi, de la part d'une institution comme la Banque mondiale, une prise de conscience lente, probablement trop lente, mais réelle, de cette corrélation, qui pour nous à l'AFD est une évidence depuis longtemps. Alors, je vais passer ces détails. Le deuxième point que je voudrais mentionner, toujours à l'intérieur de cette première partie, c'est la difficulté qu'ont les économistes à aborder cette question. Pour des tas de raisons, dans les détails desquels je ne peux pas rentrer absolument maintenant, mais en tout cas, il y en a une qui est facile à identifier, qui est la négligence très très forte de la part de la majorité des économistes du rôle de l'énergie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Oui, vous le voyez. J'ai fait dans un article de recherche un calcul simplement avec des données physiques pour essayer de mesurer l'élasticité du PIB, quoi que l'on pense du PIB, c'est un indicateur très utilisé, l'élasticité du PIB à la consommation d'énergie primaire. Autrement dit, de combien varie le PIB d'un pays, d'une région, d'un continent, du monde, si vous variez la quantité d'énergie primaire dissipée. La majorité des économistes vont vous répondre que l'élasticité est très faible, elle est comprise entre 8 et 10%, parce que, avec des petits arguments que je ne vais pas reproduire ici, qui relèvent du manuel de première année d'université, on nous explique que cette élasticité devrait être, à l'équilibre, dans une économie bien faite, égale à la part de l'énergie dans le PIB, le coût de l'énergie dans le PIB. Or, ce coût de l'énergie, à cause de la faiblesse du prix de l'énergie, et aujourd'hui, par exemple, de la faiblesse du prix du baril, est très faible. Donc, elle évolue entre 8 et, avec un pic extraordinaire à 14% en 1979, à l'issue du deuxième choc pétrolier. Quand vous regardez les données et que vous mesurez la variation du PIB à la quantité d'énergie dissipée, et non plus le prix, alors vous trouvez tout à fait autre chose. Quelque chose qui varie entre 40 et 70%. Ce qui veut dire que la dépendance de la croissance du PIB, et donc pour une bonne partie d'entre nous, la prospérité à l'énergie, est 7, 8, 10 fois supérieure à celle que nous avons l'habitude de postuler, nous autres les économistes. Et la conséquence, vous la voyez, est immédiate, c'est que Si les économistes nous disent « l'énergie n'est pas un vrai sujet, dormez tranquille, puisque l'élasticité du PIB à l'énergie est très faible », nous aurons beaucoup de mal à prendre la mesure de ce que représente la transition énergétique vers une économie neutre en carbone. Si au contraire nous prenons conscience du fait qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes incapables de produire de la prospérité mesurée par le PIB sans augmenter la quantité d'énergie de manière significative que nous dissipons, alors les économistes eux-mêmes comprennent qu'il y a une difficulté. Mais il y a un travail d'éducation que les physiciens d'ailleurs pourraient faire pour les économistes eux-mêmes. Et plus globalement, on pourrait dire, au fond, l'économie contemporaine a largué les amarres des liens avec la physique, puisque la majorité des modèles que nous utilisons violent allègrement les deux lois de la thermodynamique. Nous sommes capables de faire toute une série de choses sans énergie, nous autres économistes. Le troisième point, pour terminer cette première partie, c'est sur l'enjeu éducatif. Évidemment, nous savons tous, la démographie va jouer un rôle central, en particulier en Afrique subsaharienne, et si, c'est l'une des options possibles quand même, d'essayer de nous interroger sur la question de savoir si on peut infléchir la courbe démographique, là, il est très clair que l'éducation joue un rôle central. Comme vous le savez, c'est l'Afrique qui va donc produire les bataillons de générations nouvelles qui vont se succéder dans les années qui viennent. L'éducation des jeunes filles en particulier est un des éléments centraux pour tenter d'infléchir le taux de natalité, le taux de fécondité des femmes en Afrique. Et donc là, il y a un enjeu absolument majeur. Je passe à ma deuxième grande partie, qui est l'utilisation des modèles. Alors, fort heureusement, Valérie a déjà fait un plaidoyer lyrique pour l'éducation à la modélisation. J'enfonce le clou, parce que, ça ne vous a peut-être pas échappé, les économistes sont particulièrement illettrés sur ces questions-là. Le contexte est favorable aujourd'hui, puisque depuis cet été, trois économistes ont amorcé une espèce de tremblement de terre intellectuel, théorique, à l'intérieur de la profession. Paul Romer, qui est l'économiste en chef de la Banque mondiale, Olivier Blanchard, qui vient de quitter son poste d'économiste en chef du FMI, mais la poussière n'est pas encore retombée, donc ce qui dit quasiment encore auréolé de la gloire du FMI, et puis Narayana Kotchalakota, qui est l'ancien gouverneur de la Fed, la Banque centrale du Minnesota, de Minneapolis. Alors là, je vous ai mis un extrait du papier de Blanchard, puis un extrait, je crois, du papier de Romer. Je vais peut-être regarder celui de Romer, mais je vous encourage à regarder ces trois papiers, qui sont des brûlots au regard de la doxa des économistes mainstream. L'abstract du papier de Romer commence comme ceci, je lis, vous l'avez devant vous. Depuis trois décennies, les méthodes et les conclusions de la macroéconomie se sont dégradées à tel point qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'essentiel de ce travail n'appartient plus à la recherche scientifique. Je vous passe les détails, vous regarderez, c'est absolument savoureux. Blanchard dit, il faut simplement reconnaître que nous n'avons pas une théorie macroéconomique successful. Bon. Et ce qui est plus intéressant, deuxième paragraphe, il anticipe, un certain nombre de mes lecteurs vont se dire « Oui, c'est vrai, on a des problèmes en macro, tout le monde en a, mais nous faisons de gros efforts et nous ajusterons à la marge nos modèles. » Alors, pour ces lecteurs-là, Blanchard leur dit « Non, non, ne croyez pas que ça va se passer simplement avec des petits ajustements epsilonesques. Il faudra changer de paradigme scientifique pour les économistes. » Alors, il se trouve qu'à l'AFD, une fois de plus, nous avons une toute petite longueur d'avance sur nos camarades économistes. Et nous avons travaillé sur des modèles un peu alternatifs, des modèles qui sont utilisés par la plupart de nos collègues, et par exemple alternatifs au modèle DICE, qui est le grand modèle de Nordhaus, qui sert aujourd'hui de paradigme pour l'ensemble, une bonne partie des travaux faits par les économistes. Alors, nous avons utilisé un modèle dans lequel il y a un certain nombre de prises de décision qui sont absolument triviales pour la plupart des scientifiques, mais qui ne sont pas du tout pour les économistes. Premièrement, nous supposons que le système que nous étudions est un système dynamique qui n'est pas ipso facto à l'équilibre. Voilà. Si vous avez fait un tout petit peu d'économie, vous savez qu'on postule d'emblée que l'économie que nous étudions est à l'équilibre, avec une espèce de confusion entre l'équilibre de l'offre et de la demande, qui est un pur fait comptable, et l'équilibre mécanique, j'allais dire, vous voyez, en termes de mécanique des fluides, pour refaire de nouveau écho à Valérie, tel que nous le comprenons en physique. Ce qui fait, par exemple, que dans les modèles standards, il est impossible de faire une distinction claire entre stock et flux. Puisque tout est toujours à l'équilibre, expliquez-moi comment vous distinguez un stock et un flux. De la même manière, nous supposons non seulement que le système que nous étudions n'est pas à l'équilibre, qu'il est dynamique, mais que la dynamique est non linéaire. Parce que, comme vous le savez, les changements qui vont intervenir sont d'une telle ampleur que l'approximation linéaire au premier ordre n'est plus valide. Les rares modèles économiques où il y a un tout petit peu de dynamique sont tous linéaires. Je pourrais dire que c'est un troisième point. Nous supposons aussi que lorsqu'il y a de l'aléa, l'aléa n'est pas nécessairement gaussien. Quasi-totalité des modèles des économistes sont gaussiens. Et puis, peut-être plus intéressant encore, nous supposons qu'il y a des dettes. Alors, vu le débat que nous avons en politique aujourd'hui, ça paraît une évidence. Eh bien, Il y a encore beaucoup de modèles dans lesquels il n'y a pas de dette. Et c'est dramatique parce que, je vous donne un exemple très clair, la Chine a rendu son INDC, son NDC maintenant l'an dernier, en faisant tourner un modèle qu'elle a co-construit entre l'université de Tsinghua et le MIT, qui est un modèle d'équilibre général, calculable, voilà, dans lequel il n'y a ni dette, ni chômage. Et donc, nous avons discuté un peu de ce modèle et j'ai fait cette remarque très impertinente à mes interlocuteurs. Je dis, ce modèle est absolument magnifique, mais supposez que la trajectoire qui vous permet de mettre en œuvre votre NDC sérieusement exige que vous ayez 400% du PIB sous forme de dette publique et 90% de chômage. C'est évident que vous n'allez jamais le faire. Simplement, vous ne le verrez pas parce que sur votre modèle, c'est impossible, ça n'arrive jamais. Voilà. La réponse de mauvaise foi, hein, je crois, de notre collègue et ami, c'est pas une critique personnelle, hein, de notre collègue et ami du MIT, ça a été « Ah, M. Giraud est très obsédé par la dette et le chômage, on va lui rajouter un peu de dette et de chômage. » Malheureusement, vous voyez bien que ça n'est pas du tout aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas partir d'un modèle qui est toujours à l'équilibre, où il n'y a jamais de chômage et jamais de dette, pour construire un modèle dynamique où on comprend d'où vient la dette et quel est son lien, par exemple, avec le climat. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire, nous, à l'AFD, et nous avons construit un modèle dans lequel il y a différentes simulations possibles. Évidemment, il y a différents scénarios. Il y a un scénario extrêmement optimiste. Je vais pas vous le... Celui-là, il est absolument irréaliste, donc ce n'est pas la peine qu'on perde du temps dessus. En revanche, il y a un certain nombre de scénarios qui permettent de montrer que la prise en compte des boucles de rétroaction climatique et de l'accumulation de la dette peut conduire à des catastrophes avec un effondrement du PIB mondial, par exemple dans ce scénario-là, à la fin de ce siècle. Et puis, il y a un autre scénario qui, lui, dépend, par exemple, qui fait une hypothèse plus pessimiste sur la sensibilité au climat, hein, donc l'élasticité de l'augmentation de la température par rapport à un doublement de la densité carbone. Et là, on a un effondrement à partir de 2060. Alors, je ne suis pas en train de dire que, oui, on a le même débat qu'avec Meadows, c'est-à-dire que ceci n'est pas une prospective de ce qui va se passer. Mais ça nous aide, comme vous le savez très bien, à prendre les bonnes décisions. Alors, il se trouve que j'ai montré ce modèle à l'Académie des sciences, une autre, pontificale, à Rome, la semaine dernière. Et puis, il y avait notre ami et collègue Jeffrey Sachs qui était là. Alors, vous voyez, la réaction a été immédiate. Bon, M. Giraud, vous nous montrez des choses catastrophiques, mais ça n'aide pas à prendre la décision. Ce qui aide à prendre la décision, c'est de comprendre que ça ne nous coûtera pas très cher de faire la transition et qu'au fond, rien ne nous excuse de ne pas la faire. Alors je crois que, évidemment, ça paraît un petit peu... Alors je le dis de manière un peu caricaturale peut-être, mais je crois qu'il faut entendre cette réaction parce que c'est aussi une réaction qui nous habite, me semble-t-il, et c'est là qu'il y a un travail d'éducation à faire, qui est, j'allais dire, cette espèce de réaction auto-immune qui aggrave le problème parce que nous avons beaucoup de mal à l'envisager. Alors, pour donner quelques chiffres, combien pourrait coûter la prise au sérieux des efforts que nous devons faire pour honorer les engagements des accords de Paris? Il y a un chiffrage qui circule en ce moment entre économistes, qui est essentiellement donné par Nixon, qui est 90 000 milliards de dollars d'ici 15 ans. 90 000 milliards, c'est en gros à quelques milliers près le PIB mondial aujourd'hui, ce qui veut dire 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 tous les ans pendant 15 ans. Alors, si vous prenez le point de vue de Jeffrey Sachs, il vous dira, mais en fait, c'est pas beaucoup. Sur un PIB mondial qui fait en gros 100 000 milliards, dépenser 1 000 milliards, c'est 1%, qu'est-ce qui nous empêche de le faire, vous voyez? Et donc, c'est un point de vue... Alors là, il y a une option pédagogique qui est, n'ayez pas peur, on peut le faire, c'est facile, d'ailleurs, on va le faire. Et puis, vous avez l'autre point de vue, qui est un peu, disons, le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, qui dit, il faut faire prendre conscience à tout le monde de la gravité des enjeux. Y compris, et peut-être en premier lieu, les économistes. Et alors, pour vous renvoyer aux enjeux d'éducation dans le secondaire, si vous regardez un manuel d'économie du secondaire aujourd'hui, vous verrez que ce que je viens de vous raconter là n'est absolument pas... Et nous sommes même, si j'en crois mes collègues qui enseignent dans le secondaire, plutôt dans un mouvement de régression et de durcissement doctrinal de l'économie qui est enseignée, en tout cas en France, dans les manuels du secondaire. Alors, mais vous voyez que, en plus de cet enjeu pédagogique de qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants dans le secondaire, il y a un enjeu de psychologie collective, bon, qui est comment est-ce que nous nous aidons mutuellement, nous aidons la profession des économistes, il faut absolument sortir de son enclavement, j'ai terminé, à prendre conscience de la réalité, de la gravité du sujet, et à oser en discuter, sans chercher immédiatement des subterfuges du style « vous avez tort de nous annoncer l'apocalypse, au fond tout ça va bien se passer parce que ça ne coûte pas si cher voilà. ». Et en même temps, je crois qu'il faut entendre la bonne nouvelle qui est derrière, c'est-à-dire que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il est encore possible de faire des progrès considérables sans dépenser trop d'argent. Il est évident que d'ici 20 ans, ce ne sera plus du tout le cas. Voilà. Merci beaucoup.